Single Jungle, le podcast des célibataires. Ce livre, je l'ai écrit à la fois pour les gens qui veulent ou ne peuvent pas être en couple et pour ceux qui sont en couple, et essayer de penser à une société globale qui permette d'être plus heureuse dans ces choix qu'on fait.
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Aline Laurent-Maillard. Bonjour Aline.
Bonjour.
On va se situer avant de parler de tes nombreuses œuvres. Je commence. Donc, je suis Louisa Amara. Je suis une femme cis-hétéro, racisée, d'origine algérienne, kabyle par mon père. J'ai 43 ans, je suis une femme grosse, je ne suis pas en situation de handicap et en termes social, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire qu'à la base, mes parents sont plutôt dans la classe ouvrière, petite classe moyenne. Et moi, par mon parcours, je suis devenue une CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, dans la communication. Et en termes d'argent, je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me situe dans la minorité de Français qui gagnent cette somme. Voilà, c'est... Eh oui, je suis célibataire. Célibataire, sans enfant. Vous pouvez dire le mot nullipare, mais je le trouve pas joli. Voilà, c'est comme ça qu'on est situé par les médecins, il paraît. J'ai donné beaucoup d'informations. Tu peux reprendre le même canevas ou en dire beaucoup moins, comme tu veux.
Ouais, effectivement, c'est hyper complet. Alors, moi, je m'appelle Aline Laurent-Maillard. Je suis autrice et journaliste. Je suis pas transfuge de classe parce que je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Je suis privilégiée sur plein d'aspects. Je pense que c'est important de le dire quand on parle de célibat. Je suis blanche, mince, un peu trop même, mais bon, chacun ses problèmes. J'ai pas de handicap. Je suis parent. Je suis queer, je suis aromantique, asexuelle, non-binaire, plus particulièrement agenre, puisqu'on rentre dans les détails là, donc je vais mettre un peu de nuance. Je suis parent et j'ai un enfant qui s'appelle Jo et qui va bientôt avoir 2 ans et demi et que je choisis de ne pas genrer pour lui laisser sa liberté plus tard d'affirmer son genre comme elle le souhaite.
Et tu as fait un podcast sur le sujet, justement.
Oui, je fais pas mal de podcasts et de livres. Est-ce que tu veux que je les cite tous?
On peut commencer par, peut-être, en commençant par celui-là, sur l'éducation non-genrée.
Ouais, alors ça, c'est effectivement le dernier podcast que j'ai fait avec Paradiso Média, qui est disponible sur toutes les plateformes. Il s'appelle Bienvenue Bébé, avec un point médian avant le E de Bienvenue. Je me suis rendu compte après que c'était pas le meilleur nom de podcast, parce qu'on n'entendait pas le côté un peu inclusif dans le titre, dans lequel effectivement je raconte tous les questionnements que je me suis posés, en réalité bien avant que mon enfant naisse, mais pour le podcast j'ai fait genre c'était pile au moment où mon enfant naissait, sur comment protéger mon enfant des normes de genre. Alors je dis protéger parce que je sais en fait en tant que journaliste, en tant que personne queer, que le genre nous pousse, dès qu'on est dans le ventre de nos parents, en fait, on est déjà genré. Ça nous influence, en fait, à rentrer dans certaines cases, ce qui, forcément, déjà nous limite dans les compétences qu'on développe. On sait très bien que, par exemple, les filles, quand elles rentrent à la maternelle, parlent mieux que les garçons bougent mieux. Et donc, c'est des compétences gagnées et des compétences aussi pas développées. C'est une partie de la personnalité qu'on va pas se permettre d'écouter ou qu'on va refouler. C'est plus tard, après, bien sûr, des questions LGBTQ+, qu'on va aussi fermer les yeux sur son identité, donc probablement vivre certaines choses avec souffrance. Et même quand on est cis et hétéro, c'est aussi se fermer la porte à plein de choses. Et du coup, ça, je voulais pas. Voilà, je cherche le bonheur de mon enfant.
Très bien. Je vous recommande ce podcast parmi tous les autres travaux que tu as pu faire, parce que moi qui ne souhaite pas avoir d'enfant, et j'arrive à le verbaliser seulement maintenant, en 2024, parce que pendant longtemps, je me disais, je sais pas, on verra. Parce qu'il y avait ce canevas dans ma tête à un moment donné, je suis amenée à me poser la question et à faire un enfant. Parce que ma vie, elle sera pas complète. Je mets les air quotes de guillemets, là. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas ce besoin viscéral et que je le vis extrêmement bien, que j'adore ma filleule, j'aime beaucoup mes neveux et nièces, mais ça me va et c'est un choix de plus en plus assumée, eh bien, ça m'intéresse quand même l'éducation, de par le fait que je suis quand même entourée d'enfants.
Et je vais dire aussi, effectivement, quand je présente le podcast, je le présente sous cet aspect-là. En réalité, pour moi, en tant que féministe, en tant que journaliste qui recherche ça, ça me semble crucial, en fait, de s'intéresser à l'éducation des enfants. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que je m'intéresse à ce sujet depuis très, très longtemps. Je pense que déjà au collège et au lycée, je m'intéressais aux questions d'éducation. Parce que le sexisme, ça s'apprend quand on est gamin, en fait. Et c'est beaucoup plus facile, en fait. C'est comme les maladies. C'est beaucoup plus facile de pas tomber malade que d'essayer de soigner une maladie. Et en fait, la meilleure façon de lutter contre le patriarcat, c'est de faire en sorte que les enfants n'enregistrent pas, n'assimilent pas, en fait, toutes ces injonctions, toutes ces façons de penser qui sont après très difficiles à déloger, en fait, tout simplement.
Donc, on a tous besoin d'écouter ce podcast, tout simplement. Alors, aujourd'hui, il y a une actualité particulière. C'est ce livre qui s'appelle « Post-romantique ». Comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société, aux éditions Lattès. Donc ce livre, j'ai eu le plaisir de le découvrir lors de la présentation au Jour Urbain. La librairie était pleine à craquer. Et bah, comment tu peux raconter un peu la genèse de ce livre ?
Très bonne question. Je dis toujours que ce livre, il a été motivé pour deux raisons. D'une part, pour les gens comme moi. Donc j'ai dit que j'étais asexuelle et aromantique. Ça veut dire quoi? Je pense que de plus en plus de gens le savent, mais c'est toujours bon de le répéter. Donc, je suis asexuelle. L'asexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle. On peut avoir du désir, on peut être excité, mais ça va pas être dirigé vers quelqu'un. Et on peut aussi avoir des pratiques sexuelles, juste on n'est pas attiré par les gens sexuellement. Et l'aromantisme, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction romantique. Donc, on va pas avoir de crush, on va pas avoir de coup de foudre, on va pas tomber amoureux ou amoureuse, tomber, entre guillemets. Ou en tout cas, très peu. J'ai réalisé que je n'étais pas faite pour être célibataire et j'ai passé une dizaine d'années de ma vie à chercher à être en couple. Mmh. Après l'adolescence où je me disais juste genre ça va venir, je m'en fiche, je suis bien comme je suis. Il y a eu un moment où la pression sociale est devenue tellement forte que j'ai à tout prix cherché à être en couple, persuadée que sinon je ne pourrais pas être heureuse parce que surtout au début dans les années, c'était quoi, les années 2010, on n'a qu'à dire, il y avait encore cette idée très forte que les célibataires, c'était des losers et que du coup, je ratais ma vie si j'étais pas en couple. Ce livre, je l'écris pour les personnes qui, comme moi, ne veulent pas ou ne peuvent pas. Après, il y a parfois des combinaisons des deux. Là, je parle d'asexuel et aromantique. On peut être asexuel et être en couple, mais c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué parce que les gens pensent encore qu'on a à tout prix besoin de attirer sexuellement pour être en couple. Mais je parle aussi pour les grosses, les pauvres, les aidantes qui n'ont pas le temps, les personnes handicapées qui sont tout en bas du marché de la drague. Christelle Murla aussi, dans son livre Amour silencieux, parle aussi du fait que quand on est noir, en fait, personne ne veut de toi. T'étais genre tout en bas du marché romantique, quoi, du marché de la bonne meuf, comme dirait Virginie Despentes. Et donc, tout ça, c'est autant de personnes, en fait, qui sont exclues de ce couple et qui vivent de plein fouet, en fait, le fait que la société soit organisé pour les gens en couple. Et puis, de l'autre côté, je vois aussi tous les gens qui sont en couple, notamment à travers les travaux féministes, pour qui ça se passe pas si bien que ça, en fait. Surtout en couple hétéro, mais même en couple homo parfois, parce qu'il y a des dynamiques de pouvoir, parce qu'il y a des inégalités, parce qu'il y a de la violence. Moi, je crois pas du tout à l'idée que réinventer l'amour, ça veut dire aider des mecs à se déconstruire, parce que déjà, la majorité des mecs n'ont pas envie, n'ont pas intérêt, que c'est encore du boulot qui repose sur les épaules des meufs. Et du coup, à mon avis, on n'avancera pas très loin sans ça. Moi, je pense que la réalité, c'est que les gens seront heureux en couple quand ils pourront entrer et sortir du couple librement. Si on n'a pas le choix de son mode de vie, ben en fait, on est enfermé dans une seule solution. Et c'est un petit peu aussi tout le discours qu'il y a eu sur la déconjugalisation de... Alors là, bien sûr, le nom...
La AH, allocation ouais. Aide handicapée.
Ouais, voilà, j'ai les lettres, mais comme mais je, oui, okay. Je les ai dans le mélangé, où les militantes handicapées, justement, disaient si on perd nos droits sociaux quand on se sépare de notre mec, si c'est conjugalisé, si nos droits dépendent de notre conjoint, en fait, on ne peut pas sortir du couple. Et donc, on reste enfermé dans ce couple. Et ça, je pense que c'est un problème plus large. Toutes les aides sociales sont plus ou moins sur ce modèle. Il y a tellement d'avantages fiscaux aussi qui nous poussent, en fait, à rester en couple. Il y a tellement pas de solutions de relogement. Il y a tellement pas d'aide pour aider, notamment quand on a des enfants, à se relocaliser, etc., que les gens, en fait, restent en couple. Alors que peut-être qu'il y a des violences, peut-être que juste on a changé, peut-être qu'on veut pas de ça, peut-être qu'on veut de l'espace. Et donc voilà. Donc ce livre, je l'ai écrit à la fois pour les gens qui veulent ou ne peuvent pas être en couple et pour ceux qui sont en couple. Et essayer de penser à une société globale qui permette d'être plus heureuse dans ces choix qu'on fait.
Alors ce qui est bien avec ce bref résumé, mais quand même complet, de tous les enjeux, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'enjeux politique, parce que c'est un vrai choix de société aussi. On voit que en France, en tout cas aujourd'hui, et notamment avec le discours du président Macron, là on est dans un contexte de réarmement démographique et en même temps, non mais je vais vous enlever le congé maternité en fait. Donc il y a une espèce de mélange de « il faut agir, mais je vais rien faire pour aider vraiment ». Donc il faut bien se documenter sur ce sujet-là. Et l'un des premiers, je trouve ça super que tu en parles, c'est le sujet du logement. J'ai l'impression que tout part un peu de là. Les personnes qui sont dans la dépendance économique, qui ne peuvent pas partir vraiment, c'est quoi leur choix? Eh bien, il y a plusieurs pistes dans le livre et ça commence à remonter effectivement dans les cercles militants. Pourquoi on pourrait pas vivre à plusieurs? Alors, ça peut être des histoires de colocation. Toi, tu es peut-être plus sur le sujet de, mais et si on refaisait famille avec notre famille existante, donc notamment toi avec ta sœur, peut-être tu peux en parler.
Ouais. Il y a aussi pas mal de discussions autour de l'amitié en ce moment. Notamment le livre d'Alice Rebaud qui est sorti, qui s'appelle Amitié puissante, qui est sorti genre, le même jour que le mien. Je crois un jour près. Donc, on est clairement sur une thématique en ce moment, un début de discussion en ce moment. Et je trouve ça super de parler de l'amitié et j'en parle beaucoup dans le livre. Mais ce que je voulais pas, c'est qu'on arrive avec une société où on n'a que deux options, c'est l'amitié ou le couple. Et moi, je pense qu'il y a plein d'autres façons, en fait, de vivre sa vie. Il y a des personnes qui choisissent la solitude. Je pense aussi qu'il faut revaloriser ses choix. Et puis, moi aussi, je sais que dans mon cas particulier, je me suis longtemps dit que j'avais pas suffisamment de potes. En réalité, j'en ai plein, mais juste, mes parents avaient une telle vie sociale que comparé à eux, j'avais l'impression d'être une grosse loseuse. Mais même après, je me suis dit, bon, appartenant à la communauté queer, il faut que j'ai plein d'amis, parce que c'est le truc des queers, quoi. C'est genre, on dépend pas de notre famille qui souvent a pu nous rejeter. Le couple, c'est moins important. Il y a vraiment cette emphase sur l'amitié. Pour toutes ces raisons, je me suis un peu foutu la pression à avoir des potes et à trouver constamment que j'avais pas suffisamment de potes. Avec le temps, j'ai réalisé, mais en fait, j'en ai assez. C'est pas un truc qu'on doit collectionner et avoir le plus possible pour montrer qu'on est super désirable. Ça serait recréer la même injonction que être en couple pour montrer qu'on est désirable. Et surtout, en fait, moi, j'avais déjà énormément d'amour avec ma sœur et notamment avec ma mère. Et en fait, du coup, mon organisation, mon réseau de solidarité, c'est vraiment ma mère et ma sœur. Sauf que, c'est vu comme étant un truc de gamin, en fait, et de gamine, de rester toujours un peu accroché au basque de ses parents, de traîner avec sa famille. Et donc, du coup, moi, dans mon livre, je voulais aussi mettre ça en avant, dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on voit la famille? Pourquoi est-ce qu'on voit les attaches qu'on garde avec les personnes avec qui on a vécu toute notre vie, qui potentiellement, si ça a été des bons parents et une bonne famille, nous ont donné énormément? Pourquoi tout d'un coup, en fait, à 18 ans, ça y est, c'est fini, basta, on les voit à Noël et puis à Pâques peut-être, et puis c'est tout. Ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Et donc, c'est très bien de trouver son émancipation, et j'en parle un petit peu. J'ai passé quelques années à l'étranger ou à étudier ailleurs qu'à Paris, parce que je suis parisienne. Je vous ai dit que j'étais privilégiée. Et ça m'a vachement aidée. Mais en fait, j'ai réalisé qu'après, on a traversé, on a appris à se connaître en tant qu'adulte, et maintenant, je trouve que moi, c'est comme ça que j'organise ma vie. C'est autour de ces deux personnes, notamment avec ma sœur. On avait envie, en fait, de partager, de trouver une maison et partager pour avoir un jardin commun, une buanderie. Bref, vivre à côté, parce que on sait très bien que trouver deux apparts à côté, c'est quand même pas évident. Et si possible, partager des lieux de socialisation tout en ayant notre indépendance. Donc, ce livre, effectivement, je voulais que ça soit vraiment sur un appel à revaloriser tous les types de liens affectifs et tous les modes de vie. Et pour revenir à ta question de base, l'immobilier, effectivement, moi, ça part vraiment mon livre de l'immobilier parce que là, j'ai 36 ans, je l'écris, j'avais 35 ans. Ma sœur en avait 32. Tous mes potes, c'est à ce moment un peu où on essaye vraiment de construire sa vie. Plein moment où il y a les séparations autour des questions d'enfants. Tout d'un coup, tu cherches un appart pour avoir un enfant. Tu te demandes comment tu vas vivre. Tu te dis, la coloc, est-ce que je suis trop vieille, pas assez? Et en fait, il y avait vraiment beaucoup de questions immobilières autour de moi, notamment mes questions immobilières de moi, qui avait un jeune enfant, qui cherchait à mieux me loger, ce qui est pas évident. Ma sœur, qui venait de se séparer de son mec, justement, sur une question d'enfant, et qui, du coup, se retrouvait à avoir lâché son logement social incroyable, petit studio génial pour un mec qui, finalement, s'est cassé 3 mois après l'emménagement. Voilà, hein, bonjour les mecs. C'est ça. Et donc vraiment, j'étais traversée pendant toute l'écriture de ce livre par cette question d'immobilier et le fait qu'il y a beaucoup de piliers en fait qui font qu'on est un peu forcé, sans même s'en rendre compte en fait, on se force à aller en couple, mais notamment parce qu'on n'a pas vraiment d'option en fait sur l'immobilier. Je le vois tout le temps, donc moi j'explique que notre projet avec ma sœur est juste disparu parce que juste on ne trouvait rien en fait qui était adapté à nos besoins. Autour de moi, j'ai deux cousins qui veulent vivre ensemble, qui sont frères et qui se kiffent. apparemment, je sais pas, dans notre famille, on est comme ça. Et en fait, ils me disent, bah, à chaque fois, super bon dossier. Et à chaque fois, il y a des couples qui gagnent moins d'argent qu'eux et qui ont l'appart.
Un rejet par les propriétaires.
Complètement. Et d'ailleurs, il y a des chiffres aussi. Hein. Je cite une étude qui prouve que, alors, quand on est célibataire, ça va, on n'est pas trop stigmatisé à dossier égal. Okay. Pour obtenir des visites et pour obtenir des locations. Mais par exemple, si on est une mère célibataire.
Oui.
Ah non, mais les gens qui sont pas mères célibataires, qui gagnent moins d'argent, moins de stabilité, auront l'appart avant vous. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'en fait, il y a cette idée que, bah, c'est des meufs, donc elles savent pas gérer leur argent. En plus, elles ont des enfants, donc elles sont probablement complètement à la ramasse, elles y arriveront pas. On a aussi la question de la coloc. Je parle notamment dans le livre d'une journaliste que j'adore qui s'appelle Renée Grezard et je vous recommande de la suivre sur Instagram parce qu'elle a toujours des choses super intéressantes et qui est très dans le collectif, dans le commun et qui a voulu vivre au moment où elle a eu son premier enfant dans une maison partagée avec des potes. Elle qui allait avoir un enfant et son partenaire. Il y avait, je crois, une autre personne qui était célibataire et un autre couple. Et en fait, ils ont vachement galéré à trouver une maison pour concrétiser cette envie de cohabitation parce que quand on est jeune, c'est une colocation. Quand on est plus vieux, c'est une cohabitation.
Mmh.
Et en fait, ils ont fini par trouver un truc dans un quartier, une maison dans un quartier qui leur plaisait pas, qui était pas adapté à leurs besoins. Ce qui fait que tous les petits problèmes, en fait, ont fini par devenir des énormes problèmes parce que la structure ne fonctionnait pas. René a toujours envie de vivre comme ça en collectivité. Mais là, du coup, ça a éclaté. La fin était pas joyeuse dans cette histoire. Et c'était notamment parce que problème d'immobilier. Et en fait, voilà, on a tout plein de questions comme ça. Même des personnes qui n'ont pas choisi. Je veux dire, si on parle des aidants et des aidantes qui se retrouvent, par exemple, à gérer leurs parents. Mmh. Comment on fait? Comment on fait pour être proche, pour pouvoir aider rapidement? Comment on fait quand on doit vivre ensemble pour que les gens aient quand même leur indépendance, leur autonomie, etc.? Les appartements sont pas pensés, en fait, pour ce genre de choses. Comment on fait quand on se sépare? Quand on est coparent de façon volontaire? Comment on trouve un appartement? C'est impossible, en fait, de trouver des appartements près les uns des autres. J'écoutais un podcast sur un truc de Radio France qui expliquait, en fait, ce qui se faisait partout dans le monde pour gérer les problèmes de logement. Et je crois que c'est à Vienne, où il y a tellement de logements sociaux qu'il n'y a pas d'attente, en fait.
Et, le rêve.
Oui, et en fait, du coup, ça permettrait effectivement de se dire, ah ben, on se sépare, et ben, grâce aux logements sociaux, je vais pouvoir trouver un appartement à 5 minutes maximum de l'autre parent, à 5 minutes maximum de mes parents, et d'avoir cette fluidité. Mais là, on n'a pas de fluidité. Donc, on fait quoi? On essaye de vivre ensemble? Oui, mais on n'a pas d'appartements qui sont pensés pour ça. Moi, j'adore Romane Bourringer. Elle a fait un film et une série qui s'appelle L'amour flou.
Ouais.
Je crois que les deux s'appellent L'amour flou. Voilà. Et dans lequel elle explique comment elle a choisi de trouver un appartement qui aurait un endroit pour elle, un endroit pour son donc chambre, salon, cuisine, pour elle, pour son ex, et au milieu, les chambres des enfants.
Mmh.
Et elles ont eu vachement de chance, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que elles ont bénéficié d'un appartement neuf et ont pu faire le plan avec le promoteur immobilier, réajuster un petit peu le plan. Mais sinon, c'est impossible à trouver, alors qu'il y a tellement de gens qui seraient preneurs. Et notamment, en coparentalité choisie, quand on est célibataire, c'est quand même... Je pense que les auditeuristes de ce podcast connaissent la coparentalité choisie. C'est absolument génial de pouvoir dire, je vais élever un enfant plutôt que faire ou avoir. C'est horrible, c'est beau. Je vais y arriver. Ah, c'est pas fait. Et en fait, c'est aussi le sujet de mon livre. C'est qu'on nous a tellement appris des choses que même quand on sait que c'est pas bien, en fait, de parler comme ça, de penser comme ça, ça reste. Et oui. C'est pour ça que vraiment, à chaque fois, je dis genre, ce que des gens me disent, mais je me suis sentie comme une merde après avoir écouté ton podcast, ton livre, parce que j'ai toujours envie d'être en couple. Et je suis là genre, ouais, mais c'est normal, en fait. C'est juste normal. C'est exactement ce que l'organisation de notre société, les médias, la culture, c'est normal que ça crée cet effet chez toi. Donc, élever des enfants ensemble entre potes ou avec une personne inconnue. Je parle de quelqu'un dans mon bouquin qui est célibataire et qui, lui, parle de la personne avec de son coparent en disant c'est une partenaire. Genre, pratiquement professionnelle, quoi. Ils disent, on se salue, on se dit bonjour, on papote 5 minutes, mais on veut pas devenir pote.
Okay.
Et pour lui, c'est la solution. Il me disait, j'ai essayé avec une pote et en fait, dès qu'il y a de l'affectif, l'affectif s'y mêle comme en couple. Et moi, je voulais quelque chose qui soit clean, quoi, entre guillemets.
Ok. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'il y a quand même ce sujet de... On nous a élevés, conditionnés à vouloir être en couple, donc c'est normal. Donc il y a toute cette explication de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour romantique, qu'en fait c'est très récent dans l'histoire. Et c'est toujours émaillé de statistiques, moi j'adore les stats, donc je suis trop contente, et notamment sur comment les célibataires se sentent aujourd'hui. Et il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, on nous lâche un tout petit peu plus la grappe depuis quelques années. Et il y a ce truc, mais en fait, globalement, les célibataires, ça va. Les dernières études, ils sont pas tous en train de se dire « je suis profondément malheureux, malheureuse, je veux absolument rencontrer quelqu'un ». Non, c'est parfois un désir, mais ça n'est pas l'obsession de toute personne célibataire, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Moi, je me suis sentie reconnue en me disant mais ah ben on est là, on existe,
ça va,
et ça va aussi de dire que ça va pas des fois.
Oui, et puis c'est vrai que ce qu'on voit dans les stats, c'est genre grosse surprise, un des trucs qui pèse le plus aux célibataires, c'est le regard des autres.
Oui.
Surprise, c'est l'absence de représentation dans les médias. En fait, il y a jamais de célibataire dans la culture. À part Samantha dans Sex and the City, ça fait quand même 30 ans qu'on a le même exemple. Peut-être 20 ans, je sais pas exactement, mais 20 ans, ouais. À part ça, les célibataires qu'on a, c'est toujours des célibataires qui cherchent à être en couple.
Surtout
plus
les
ou
femmes.
Moins activement, bien sûr. Ouais. Bien sûr, je parle des femmes parce que les hommes, il y a un peu plus de liberté et de représentation. Et puis l'autre problème principal, c'est juste les conditions de vie, c'est la précarisation, c'est le fait de passer après tout le monde, c'est le fait de galérer pour se payer des vacances, c'est le fait de galérer pour se payer des apparts, c'est le fait de passer derrière quand on doit poser des jours dans beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui pèsent. C'est la fiscalité qui nous tire en arrière, que nos modes de vie en tant que célibataires soient pas reconnus, que nos potes qui ont des enfants arrêtent d'être là, que nos potes qui se mettent en couple disparaissent juste à ce qu'ils et elles se séparent. Donc c'est ça, en fait, c'est l'organisation centrée autour du couple qui peine les célibataires. C'est pas du tout le fait de vivre en célibat.
Ouais, d'ailleurs, tu parles effectivement de la fiscalité. Il y a plein de choses que j'ignorais, alors que bon, ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet, au moins intensément pour le podcast. Saviez-vous que si, en tant que célibataire, vous voulez transmettre un patrimoine éventuel à des membres de votre famille ou à des amis, il y aura une imposition plus forte que si c'était pour votre compagnon ou votre compagne. Et là, tu dis, mais en quoi mon argent, il est plus important, moins important. Tu vois, il y a une espèce de double échelle qui montre bien qu'en fait, l'objectif dans cette façon de gérer les impôts, de toute façon, les impôts, c'est politique à mort, c'est une façon de dire, oui, mais vous avez fait un choix de vie en étant célibataire que nous, État, on ne valide pas beaucoup. Donc, si vous transmettez, on va vous en prendre un petit peu plus. Donc, on encourage un peu plus le couple et la famille au sens faire des enfants. Mais des fois, on n'a pas pu, on n'en a pas eu pour plein de raisons. On voudrait transmettre, je ne sais pas, pourquoi pas un ami, quoi.
En fait, ce que j'explique aussi dans le livre, je vais faire très rapidement sur la partie historique, mais si ça vous intéresse, c'est fascinant. Donc, je vous recommande mon livre, voilà, humblement. Cette idée du couple romantique, de se mettre en couple, ça nous rendra heureux et c'est le salut et la sécurité et le bonheur pour la fin de nos vies, c'est apparu pile au moment où les femmes commençaient à gagner de l'indépendance économique et n'avaient plus autant besoin des hommes. Et en fait, cette création du mythe romantique, pour moi, c'est cette idée que se mettre en couple monogame, hétéro, pour la vie, avoir des enfants, etc., ça nous rendrait heureux et heureuses, il est apparu pour que les femmes aillent d'elles-mêmes dans le couple alors qu'elles n'y étaient plus obligées socialement ou économiquement. Et donc ça, il faut vraiment garder en tête que le couple romantique, nous, on a l'impression qu'on le choisit, mais en fait, c'est la société qui a choisi que nous soyons en couple pour recréer ce truc patriarcal du couple dans lequel le mec travaille plus, la meuf travaille moins. D'ailleurs, c'est comme ça, les impôts favorisent ce genre de situation, l'impôt sur le revenu, et dans laquelle après, on pourra passer son capital à ses enfants, etc. C'est ça, en fait, toutes les lois, quand on regarde toute la fiscalité, que ce soit des revenus ou de l'héritage, c'est ça, c'est juste continuer à préserver cette unité et à dire, du coup, que tous les autres liens sont moins forts. Mais ça, c'est un choix. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, j'en parle pas tant que ça, mais un tout petit peu dans le livre, mais l'amitié fait peur, en fait, aux États modernes. Parce que l'amitié, c'est la création de solidarité. L'amitié, c'est déjà au cœur du féminisme, en fait. Si le féminisme en est là, c'est parce qu'il y a de la sororité, c'est parce qu'il y a de l'amitié. Ça permet de communiquer, ça permet de s'échanger des informations, ça permet de créer ensemble, de lutter ensemble. Et donc, du coup, c'est foncièrement effrayant pour des gouvernements qui veulent tout contrôler. Parce que bon, voilà, tout d'un coup, t'as les femmes qui arrivent et qui disent, oh, alors on va vous prendre votre pouvoir de mec blanc au pouvoir en costume cravate. Ça peut aussi être des gens qui vont dire, on n'a pas besoin de la sécu. La sécu, en fait, toute la modernité, le passage à la modernité où tout d'un coup, on a eu le système social, la sécurité sociale, la retraite, tout ça. Ça s'est fait au même moment où on disait, la modernité, c'est d'être dans son pavillon de banlieue, seul et isolé, et rester avec ses parents, avoir des potes, vivre dans des apparts les uns les autres, vivre dans des hameaux de village où tout le monde se connaît. Ça, c'était arriéré, quoi. Et donc, il y a vraiment cette idée, en fait, que l'amitié fait peur parce qu'elle court-circuite le pouvoir qu'essaye d'avoir le gouvernement. Donc, le gouvernement a tout intérêt, en fait, à isoler les femmes dans le couple. Bien sûr, personne ne se dit ça, comme ça, on va faire ses lois pour ça. C'est bien plus inconscient que ça, je pense. Ou alors, vraiment, les gens sont une horrible nature, ce que je ne crois pas.
Tu dis à plusieurs reprises, un peu dans le livre, mais aussi dans tes podcasts et notamment aussi dans l'intervention que tu as pu faire dans Sologamy, que l'expression « tomber amoureux », pour toi, elle convient pas. On tombe amoureux, on choisit d'être amoureux ou amoureuse. Est-ce que tu peux expliciter ?
Tomber amoureuse ? Non, mais genre, d'où, en fait, on marche dans la rue et tout d'un coup, on tombe dans les bras de quelqu'un et c'est une évidence. Combien de personnes se rencontrent sur un truc comme ça ? Là, on s'est rencontrés dans la rue. Enfin, même si on avait un coup de foudre, si on n'était pas célibataire et à la recherche, on n'en ferait rien. Enfin, je veux dire, si on croise quelqu'un et on se dit genre, waouh, cette personne est tellement belle et bien habillée et a une aura incroyable. Mais en fait, si on n'est pas à la recherche, on continue de marcher, on va pas lui dire genre, oh, tu veux devenir amie avec moi? Je sens qu'on est faite pour devenir amie. Non, en fait. Donc, tout ça, et quand on va à des rencarts, on ne tombe pas amoureuse. On travaille. On fait rencart après rencart. On passe des heures à réfléchir à nos textos, à ce qu'on va écrire, à notre message, à ce qu'il faut dire. Est-ce que je lui dis je l'aime? Est-ce que je lui dis pas je l'aime? Quand est-ce que je le présente? Est-ce que je fais peur à l'autre, etc.? Tout ça, c'est des calculs. Enfin, il y a vraiment rien de spontané. Et en fait, donc, voilà, donc, tomber amoureuse, non, je n'y crois pas. C'est encore un mythe que ça nous tomberait dessus et qu'on ne pourrait pas y échapper. Ça nous vient tout droit du mouvement des romantiques qui, vous le verrez en lisant mon livre, sont des gros bâtards. Voilà, c'est dit. Elles nous ont fait un cadeau empoisonné avec leur mythe comme ça, de l'amour qui nous tomberait dessus, qui nous emporterait dans sa passion avec la femme, qui devrait se sacrifier pour l'homme. C'est bon, merci. Non.
Elles finissent pas très bien en général.
Non, bah non, elles finissent toutes sacrifiées. Voilà. Elles finissent toutes soit dans un asile, soit suicidées, soit mortes sur un rocher nu dans de l'eau.
Parce que pour eux, l'amour heureux, c'est un truc de bonne femme.
Ouais, exactement, exactement. Donc on ne tombe pas amoureux. Et d'ailleurs, la preuve, au-delà de juste de nous-mêmes observer dans quelle situation en fait on crée ce sentiment romantique, c'est que avant justement du coup l'époque romantique, dont disons le début du 19e siècle. Les gens tombaient très peu amoureux et amoureuses.
Mais ils restaient ensemble, pour eux.
Alors, les gens étaient en couple, mais ça n'avait rien à voir avec du sentiment romantique. D'ailleurs, souvent, par exemple, au Moyen-Âge, on disait, il ne faut pas tomber amoureuse de sa meuf. Attention, non, ne le faites pas. Mais il y avait de l'affection. On pouvait quand même tomber amoureux et amoureuse de son partenaire, mais ce n'était pas ça qui faisait le couple. On pouvait tomber amoureux et amoureuse en dehors du couple, mais ce n'était pas un sentiment qui était valorisé. Les gens ne faisaient pas d'efforts, en fait, pour tomber amoureux et amoureuse. Et donc, c'était relativement rare comparé à maintenant. Alors, bien sûr, on peut pas calculer. Il n'y a pas de stats, il n'y a pas de choses comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en regardant les textes littéraires, les journaux intimes, etc., on voit bien que ce n'était pas du tout quelque chose d'aussi présent que maintenant, quoi. Où tout le monde doit tomber amoureux entre 15 et 30 ans. Non, mais juste.
Et si ça n'arrive pas, et là, c'est un sujet que tu abordes, parce que finalement, on est peut-être très nombreux à être concernés, c'est, et si l'amour ne vient pas, mais que la relation nous convient ? On partage une intimité, on est bien ensemble, mais l'amour ne vient pas. Et ben là, la société nous dirait, ben en fait, ça va pas, parce que là, tu suis pas le scénario des films. Normalement, l'amour doit se développer, tu dois ressentir des papillons qui ne seraient pas du stress. Et non, et je peux vivre cette relation sans qu'il y ait forcément de l'amour comme étiquette dessus.
La dernière relation que j'ai eue dans ma période, faut que je sois en couple, mon partenaire m'avait dit, mais vraiment prise de surprise, je m'y attendais pas du tout. Juste avant, on participait à un documentaire et tout, et le soir, en rentrant du documentaire, elle me dit, non, c'est fini. Et je dis, genre, et elle me dit, on n'est pas en train de tomber amoureux, et du coup, ça va pas. Et j'étais là, genre, ah bon? Enfin, genre, moi, je trouve qu'on a un bon truc, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi on arrête cette relation? Enfin, moi, personnellement, je suis bien. J'aime bien l'intimité qu'on a. J'aime bien la dynamique. Et ouais, c'était un peu cette incompréhension. Et en fait, je trouve ça super intéressant de regarder aussi ce qui se passe dans d'autres cultures. C'est toujours un peu ma solution. Regardons dans l'histoire et dans d'autres cultures. Et on voit que dans plein de pays où il y a des mariages... mariages arrangés, mais... C'est-à-dire que je trouve ça très intéressant d'écouter ce qui se fait, notamment avec les personnes d'origine d'Asie, donc Asie du Sud-Est... qui raconte comment est-ce que ils essayent de combiner en fait cette culture du mariage où on rentre sans sentiment amoureux et où l'affection se construit avec le temps et des impératifs de la vie européenne ou états-unienne, nord-américaine, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ces personnes-là disent, en fait, nous, on sent la pression d'être amoureux, amoureuse, mais nous, on voit les gens de notre famille et on voit que s'il y a eu un bon match au début, pas un truc de sentiment, de passion, etc., mais juste un bon match, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, on a envie des mêmes choses dans la vie, en fait, c'est ça le plus important. Plutôt que d'être amoureux ou amoureuse, c'est de savoir si on veut des enfants ensemble, comment on veut les éduquer, où est-ce qu'on veut vivre. En fait, moi, je pense, franchement, en tout cas, c'est comme ça que moi, si je devais être en couple, je le ferais. Je préfère d'abord mettre au point la vie que je veux, parce que être amoureux, amoureux, c'est autre chose qu'être en couple et fonder une famille, en fait. Et donc, fonder une famille, on peut avoir des enfants ou pas, hein, c'est juste, c'est une famille à deux. Et je pense que le plus important, c'est d'abord de savoir si on est d'accord sur le mode de vie
Après, les sentiments, ils peuvent grandir. De toute façon, on fait grandir les sentiments. De toute façon, en couple, il y a plein de couples qui sont ensemble et les sentiments, ils ont disparu. Les sentiments amoureux ont disparu. Donc, c'est pas les sentiments, à mon avis, qui doivent nécessairement, la nature des sentiments, pour moi, qui doivent déterminer le mode de vie, mais plutôt l'envie de construire quelque chose ensemble. Et après, on voit comment les sentiments évoluent. Et puis, de toute façon, moi, je trouve que cette idée que ça devrait être jusqu'à la fin de la vie, ça m'énerve, quoi. Genre, rien n'est figé. Enfin, on change, tout le monde change. Les sentiments évoluent. Tellement de choses qui peuvent se passer dans une vie. Juste un peu de fluidité, quoi.
Oui, je suis d'accord. Je me disais que, dans le livre aussi, il y a ce sujet de tout ce temps qu'on peut consacrer aussi à nos amitiés, à entretenir ces amitiés-là. Ça va pas remplacer la quête du couple, mais juste en se disant, maintenant, je suis célibataire, je vis le truc comme je veux, et j'arrête avec la pression, j'arrête avec le regard des autres. En fait, ça me libère vachement de temps.
Alors, si je peux me permettre de citer une des plus grandes séries de tous les temps qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, With That Love, We Can Save the World.
Ah, génial.
Et vraiment, je vous recommande de taper ça sur YouTube. C'est génial. C'est cette personne qui est complètement obsédée par les mecs et qui, à un moment, décide voilà, qu'effectivement, si elle n'est pas en couple, elle a du temps pour faire d'autres choses. Et c'est complètement débile comme chanson et génial. Donc oui, effectivement, en fait, quand on passe pas son temps non seulement à chercher l'amour ou à être en couple, mais aussi à se faire belle, à se préparer, etc., on a beaucoup plus de temps, on a beaucoup plus de sérénité. C'est hyper anxiogène, en fait, de chercher l'amour, entre guillemets, parce que, comme je le dis dans mon livre, de l'amour, on en a beaucoup, même sans avoir trouvé l'amour. Et tout ça, ça prend vachement de stress. On est constamment en train de se demander, est-ce que je suis suffisamment belle? Est-ce que j'ai suffisamment de valeur? Qu'est-ce que l'autre pense de moi? En plus, il y a tous ces jeux comme ça. On nous a appris que la construction du sentiment romantique se faisait par des jeux comme ça de séduction, où il fallait pas communiquer pleinement, pas être franc. Enfin, c'est juste absolument exténuant. Enfin, moi, je trouve ça exténuant comme truc, alors que, en fait, oui, le temps, il pourrait être utilisé pour soi. Marie Coq, elle en parle dans son livre Vieille fille. Elle dit, genre, moi, quand j'étais célibataire, tout le monde disait, tu vas avoir du temps pour faire ci, pour faire ça. Et elle a voulu juste qu'une chose, c'était juste traîner sur son canapé. Et c'est absolument génial. Moi, les gens passent leur temps à me dire, mais genre, t'as écrit tellement de bouquins, alors que tes parents, et tu regardes tellement de séries. Je suis là, genre, oui, je suis célibataire.
Tout simplement.
Ouais, tout simplement. Il y a plein de choses, en fait, que j'ai pas à gérer. La communication, c'est un peu la compétition quand on est parent. Constamment, c'est de comparer. Est-ce que ça me prend plus de temps d'être parent célibataire que d'être parent en couple? Parce qu'en fait, quand t'es parent en couple, les décisions, faut les discuter ensemble, etc. Il y a plein d'avantages à être en couple, ou en tout cas, à élever des enfants à plusieurs. Mais c'est vrai que quand on est célibataire, il y a des choses qui passent beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Et c'est d'une certaine façon, en tout cas pour les femmes, une économie de temps de pas avoir s'occuper d'un mec en plus. En fait, c'est un enfant de moins à gérer. J'exagère un petit peu parce que je connais des hommes très bien, mais c'est quand même, moi je suis toujours hallucinée d'entendre certains témoignages, quoi. C'est toujours vrai en fait, ces trucs-là. Donc oui, le célibat, c'est bien.
J'ai constaté que dans ton dernier livre, Post-Romantique, les chapitres sont faits avec des titres de chansons. Pourquoi ?
C'est difficile d'écrire sur l'amour romantique et pas avoir des chansons dans la tête constamment. J'ai vraiment écrit ce bouquin avec des chansons constamment coincées dans la tête parce que c'est la source numéro une d'inspiration pour les chanteurs et les chanteuses. C'est juste hallucinant. Et encore, j'écoutais le nouveau single d'un groupe que j'adore, Chromeo, qui fait du funk. Et je les adore. Je suis une énorme fan, genre vraiment une énorme fan. Mais toutes leurs chansons, ça parle de meufs.
Ah ouais?
Ah ouais, toutes leurs chansons, ça parle de meufs. Et à chaque fois, je suis là, même leur album et tout, c'est genre un piano avec des jambes de meuf et tout. Et je suis là, genre, je les aime tellement. Mais genre, pourquoi est-ce que je regarde un groupe qui pense comme ça que au sexe et pas, c'est pas que du sexe, c'est aussi de l'amour, mais c'est genre, ça ne parle que de meufs, leurs chansons. En réalité, c'est partout. Si on regarde les hits, si on regarde les plus grands tubes, c'est absolument incroyable le nombre de chansons qui parlent de ça. Et ça, ça crée dans notre inconscient, en fait, cette idée que, voilà, tout tourne autour du couple, que c'est la chose la plus importante dans notre vie. On pourrait chanter tellement d'autres choses, en fait. On pourrait chanter l'amour familial. De mes chansons préférées, c'est Just the Two of Us, surtout celle chantée par Will Smith pour son enfant, que j'adore. On pourrait chanter l'amour pour ses parents, on pourrait chanter l'écologie, on pourrait chanter la recherche d'appart. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on pourrait chanter tellement plus d'autres choses. Alors, heureusement, il y a des artistes comme Pomme, etc., qui parlent aussi de bien-être, qui parlent d'identité, qui parlent de plein de choses qui les touchent dans la vie. Mais en fait, la vie, c'est justement, les artistes qui chantent autre chose que de l'amour prouvent à quel point la vie, c'est bien plus que le couple. Moi, j'ai envie qu'on entende plus ça, en fait. Et je cite aussi dans le livre, on peut parler de chansons de chansons d'amour, qui est aussi d'ailleurs un de mes films préférés, les chansons d'amour de Christophe Honoré, qui ne rentrent pas dans le mythe romantique. Et donc ça, c'est un petit pied de nez. Mais on a aussi les films et les séries.
Oui, alors ça, c'est le conditionnement ultime. Hein.
conditionnement ultime qui commence dès qu'en fait les histoires, ça commence dès que t'es gamin et gamine. Et je montre dans le livre, je vais pas repartir dessus là maintenant, mais comment en fait dans l'histoire, c'est la fiction qui a créé, d'ailleurs romantique, roman. C'est l'histoire, les mouvements artistiques, la littérature qui ont créé ce mythe en fait qu'on a aujourd'hui. Et j'ai trouvé une stat en fait qui est sortie, mais genre je crois la veille du jour où il fallait que je rentre ce livre, et j'étais là genre attends, faut que je change quelque chose. C'est une étude qui a été faite je crois aux États-Unis et qui prouve que la majorité des jeunes veulent plus de représentation de tous les liens affectifs et notamment plus de l'amitié, du célibat. Il y en avait aussi pas mal qui disaient de la romantisme. J'étais là genre ouais. Donc oui, il y a une vraie volonté, en fait, les jeunes en ont marre. C'est pas qu'on veut la fin des histoires d'amour, on veut la fin des grandes chansons d'amour. Genre, je me battrai toujours pour « And I will always love you » de Dolly Parton et Whitney Houston. Bien sûr, c'est genre magnifique, mais juste plus de diversité pour qu'on voit d'autres options. Et c'est vrai que moi, j'en parle dans le livre, comme j'avais pas de modèle de célibat. Ce qui est assez incroyable, c'est que je sentais que c'était pas dans mon langage émotionnel d'être amoureuse ou de ressentir de l'attraction sexuelle. Quand j'étais lycéenne, j'arrêtais pas de m'inventer des façons d'avoir des enfants. Et le soir, avant de me coucher, je me disais, alors, tu pourrais avoir une amie qui meurt d'un cancer, comme dans les films, là, les comédies romantiques, et du coup, tu aurais en charge ton enfant. Sauf que j'arrêtais, généralement, les comédies romantiques, c'est que elle laisse la charge à deux personnes qui ne se supportent pas, un homme et une femme, et après finissent par tomber amoureux.
Ah oui.
Non, moi je voulais juste qu'une personne meure et me file son enfant. Je voulais avoir un coup d'un soir et du coup avoir son sperme en moi et du coup avoir un enfant alors que j'avais pas du tout envie de coucher, etc. Mais j'avais besoin de me créer toutes ces histoires pour visualiser comment je pourrais avoir un enfant seul. Parce que je savais pas que la PMA existait. J'avais jamais vu en fait de célibataire heureuse. Et ce qui est assez dingue, c'est que dans ma tête, dans mon inconscient, je savais que c'est ce dont je voulais, mais je n'avais pas de mots pour le dire. Je n'avais pas de modèle pour me soutenir vers ça, en fait. Et donc, je suis quand même passée par une décennie à chercher à être en couple, alors qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas pour moi. Et en fait, dès le moment où il y a vraiment eu des modèles, dès le moment où j'ai entendu le mot asexuel, où j'ai entendu le mot aromantique, tout ça, ça a changé la perception de qui j'étais, de quelle relation j'avais envie, de ce que ça voulait dire pour moi, l'intimité, l'amour, etc. Et donc, avoir des modèles, c'est hyper important. Si vous vous demandez si vous êtes aromantique, pour moi, le meilleur modèle qui existe, parce que c'est très tabou. Autant la sexualité, on le voit de plus en plus, notamment dans Sex Education, dans plein de séries Génération, qui est absolument incroyable, qui est sur Canal+. L'aromantisme, on le voit jamais. Et d'ailleurs, souvent, quand je dis que je suis asexuelle et aromantique, ou quand je dis que je suis aromantique, on garde que asexuelle, ou quand je dis que je suis aromantique, on transforme ça en asexuelle dans les médias, je suis là genre... C'est pas la même chose. C'est vraiment très, très tabou de dire « je ne ressens pas d'attraction romantique ». Il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles à part Joe March dans « Les quatre filles du Dr. March ».
Ah oui.
Et c'est vraiment, vraiment la version de Greta Gerwig et les livres, c'est flagrant. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi les autres se marient, qui est là genre « mais pourquoi tu veux te marier ?» qui dit à son meilleur pote genre « je comprends que tu es amoureux de moi, mais moi, je te vois comme un pote et j'ai pas envie de ça ». La fin du livre, et c'est vraiment très, très mis en avant dans le film de Greta Gerwig, on n'arrive pas à savoir... Parce qu'en fait, dans le bouquin, elle finit en couple.
Okay.
Mais en réalité, c'est parce que c'était une demande de l'éditeur, pour qui il fallait forcément qu'il y ait une fin en couple, sinon c'était les gens ne comprendraient pas, en fait. C'était pas l'ordre des choses. Et donc, du coup, l'autrice, elle est toujours restée célibataire. Et donc, Greta Gerwig, elle a vraiment joué dans la mise en scène, sur le flou un petit peu, en montrant que, est-ce que c'est la demande de l'éditeur? Est-ce que c'est réellement ce qui lui est arrivé? On ne saura jamais vraiment ce que l'autrice voulait faire. Mais en tout cas, de laisser ce flou, de se dire, bah voilà, Joe March, il n'y a pas de raison qu'elle soit en couple parce que vraiment, ça ne lui va pas. Mmh. Quand j'ai entendu quelqu'un dire que Joe March était aromantique, je me suis dit genre, ah ouais, en fait, c'est pour ça que j'aime tellement ce personnage. Et ça m'a permis de visualiser ce que ça voulait dire que d'être aromantique et heureuse dans sa vie et faire ce qu'on kiffe. Donc dans son cas, pour elle, écrire, pour moi, écrire, ça tombe bien.
Non, bah super. Et c'est vrai que même dans les Disney, parce que les films d'animation, c'est un peu ce que les enfants vont voir souvent si on les met devant, on n'est pas obligé. Et ben, on commence à avoir quelques films d'animation où les héroïnes en particulier ne cherchent pas l'amour. Moi, je pensais à La Reine des Neiges 1 et 2.
Elsa n'est pas lesbienne. Elle est juste célibataire.
C'est ça. Et là, elles ont dit, oh, mon Dieu.
Mais c'est dingue, ça. C'est dingue, en fait, qu'il y ait tellement de personnes qui disent, ah bah, Elsa est lesbienne. Il n'y a rien qui prouve qu'elle est lesbienne.
Mais pas du tout.
Elle n'a aucun intérêt pour personne. Pourquoi ça serait pas plus simple de juste lui laisser la paix et de dire, juste, bah, en fait, elle est célibataire, elle aime être célibataire. Peut-être qu'elle est hétéro ou lesbienne, mais juste, elle n'a pas envie de dater parce qu'elle a un petit problème avec ses doigts qui transforment tout en glace. Ou peut-être qu'elle est aromantique. Ou peut-être que, enfin, juste, on n'en sait rien, quoi.
Il y a eu combien d'articles sur le sujet?
Mais c'est comme tous les trucs avec Rosa Bonheur et tout ça, ou aussi toutes ces personnalités du passé qui avaient des amitiés très intenses. Et tout de suite, on va dire qu'elles étaient en couple. Et peut-être qu'elles étaient amoureuses. Je n'en sais rien. Mais en fait, on n'a aucune preuve qu'elles soient amoureuses. Peut-être qu'elles étaient amies.
et que l'une était aromantique ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'elles étaient amies, juste amies, et qu'il n'y a pas à chercher autre chose que ça. Mais notre obsession, c'est dès qu'on voit deux personnes qui sont proches, c'est de dire amoureuse. Mais non, pourquoi ? Donc oui, Elsa la célibataire. Et d'ailleurs, je le dis dans le bouquin, tous les films avec des femmes en personnages principaux sont des films avec des meufs qui ne cherchent pas de mec. Elsa et Barbie.
Ah oui, voilà. Oui, Barbie, elle cherche pas non plus.
Ah non, Barbie, elle en a rien à faire. Il y a Ken qui est là et elle est là, genre, tu sais à quoi.
C'est très drôle ce film aussi. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui ont dit, mais non, c'est pas féministe et tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur justement cette prise de pouvoir de dire, mais moi, je prends en main mon destin, je veux aller à la recherche de quelque chose. Et Ken, lui, il a un seul objectif. Moi, je trouve ça très drôle parce que c'est inversé. Son seul objectif de vie, c'est d'être avec Barbie. Et je me dis, mais tu peux pas te construire dans ta vie en fonction d'une autre personne. Tu dois d'abord être entier, toi. Donc, ce mythe de « on est incomplet si on n'a pas rencontré l'autre », c'est faux. C'est complètement, là aussi, de la construction.
Moi, je trouve ce film hyper intéressant. J'en parle beaucoup dans le film, ce qui est une sorte de gender swap où, tout d'un coup, quand on fait vivre à un mec un truc que, normalement, seules les femmes vivent, on se rend compte que c'est, genre, pathétique, en fait. Non, mais vraiment, Ken, il est pathétique, mais en fait, la société nous a transformés en êtres pathétiques. Je dis ça, je suis désolée, les termes ont l'air un peu durs. C'est pas que je pense qu'individuellement, on est pathétique, je pense juste que la société a fait que la gente féminine est dans cette situation où on dépend des autres et on s'oublie. Et ça, c'est pas acceptable, quoi. Et en même temps, qui nous montre très bien comment le patriarcat fonctionne. Et moi, je trouve que c'est un film superbe à cet égard. Et puis, c'est une éloge quand même d'un personnage asexuel et aromantique, je l'ai dit. Personne d'autre ne l'a dit. Je me demande pourquoi. Aucun article n'a été fait sur le fait que Barbie est clairement asexuelle et aromantique. Pourquoi ? Parce que c'est tabou. Voilà, je l'ai dit. Mais voilà. Ici, moi, je brise le tabou.
Très bien. Tu évoques Bell Hooks et aussi Geoffroy de la Ganerie, qui a une expression qui est amicaliser l'amour.
Encore une fois, c'est un truc hyper culturel. Selon les endroits où on vit, selon la communauté, selon les milieux sociaux, on ne vit pas en couple pareil. Et en fait, effectivement, il y a tout un truc, notamment dans la classe moyenne, avec le pavillon de banlieue, où forcément, on est très coupés les uns des autres. En termes d'immobilier, encore une fois, avant, il y avait notamment aux États-Unis, il y avait des front yards. Donc, les gens, en fait, vivaient. Et en France, c'est pareil. D'ailleurs, si on regarde, les jardins étaient devant sur le trottoir. Et ça permettait d'être plus en communication avec la ville. Maintenant, tout le monde veut mettre la maison devant et le jardin derrière. Et donc, tout ça, c'est encore une façon de s'isoler, de rester dans l'entre-soi. Et en fait, je cite notamment dans le livre une stat qui avait calculé, en fait, à quel point les gens voyaient leurs amis, leurs proches, leurs familles quand ils étaient en couple. Et on voyait que chez les Blancs, la mise en couple signifiait qu'on arrêtait de parler à sa famille et qu'on arrêtait de parler à ses potes. Une fois que les enfants arrivent, les parents le savent, on voit plus des gens parce qu'en fait, on en a marre d'être avec les enfants. Et puis que bon, il y a toutes les activités sociales qui vont avec. Donc vraiment, c'était pas le fait d'avoir des enfants qui est isolé socialement, comme on le dit. Ça, c'est un petit truc qui passe juste les deux premières années. Et encore, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai rarement vu autant de personnes que la première année avec mon enfant parce que justement, j'avais pas envie d'être seule. Et donc, du coup, on voyait tout le temps du monde et tout le monde était ravi de faire partie de cette période intime de ma vie. Alors qu'à l'inverse, les personnes qui étaient latino, elles n'avaient pas une baisse en fait dans la fréquentation de leurs proches au moment de la mise en couple. Et donc ça montre vraiment que c'est une construction culturelle en fait de s'isoler. Il n'y a pas de raison à ça. Donc moi, effectivement, dans le bouquin, je prône l'amicalisation de l'amour romantique parce que je pense, je le répète à chaque interview, mais c'est hyper important. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est de rappeler quand on parle d'amour romantique, de dire que c'est de l'amour romantique et pas juste de l'amour avec un grand A, parce que ça invisibilise tous les autres types d'amour. C'est comme si les autres types d'amour n'existaient pas. Donc moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le côté amicaliser l'amour romantique, c'est-à-dire avoir la même rigueur avec ses potes qu'en couple. C'est-à-dire exiger l'égalité, c'est-à-dire exiger qu'on s'explique, qu'on ne nous fasse pas de crasse, c'est-à-dire penser cette relation comme une relation plurielle qui ouvre vers l'autre, c'est aller voir les potes des potes, tester des nouvelles choses. C'est ne pas s'enfermer sur ce truc de « j'ai une seule personne qui répond à tous mes besoins ». En amitié, généralement, même si on a un ou une meilleure amie, on a plein d'autres amis qui nous apportent des choses différentes. C'est ça qui nous permet de grandir, d'explorer toutes les facettes de notre personnalité. On sait qu'on va avoir une pote qui va être super bien pour nous remonter le moral, l'autre pour nous filer des coups de main, des conseils, etc. Et en fait, c'est parce qu'on a toutes ces personnes qui apportent des choses différentes qu'on est épanoui. Et en fait, l'amour romantique, moi, j'appelle le couple en fait à une ouverture du couple, pas nécessairement sexuelle et romantique, même si moi, je suis foncièrement, même si je suis aromantique, foncièrement, je suis pour le polyamour. Chacun vit comme il veut, mais je pense que effectivement, ça serait intéressant de revaloriser cette ouverture comme ça, en termes de liberté.
mais c'est aussi l'ouvrir à d'autres personnes, à la famille, aux amis, à des rencontres pas intenses. Enfin, je pense aussi qu'on parle beaucoup, beaucoup des amitiés profondes, mais on parle pas beaucoup juste de cette pote que tu vois une fois tous les 6 mois, avec qui tu as travaillé il y a 10 ans, et à chaque fois que tu vois, tu te dis « Ah, j'ai passé une bonne soirée, c'était cool, ça m'a ouvert l'esprit, on s'est bien marré, on a beaucoup rigolé », sans que ça devienne nécessairement une amitié profonde. Et en fait, c'est vraiment tous ces niveaux qu'il faut revaloriser pour qu'on soit vraiment, que tous nos... Ça fait un peu égoïste, mais que tous nos besoins, en fait, soient satisfaits et qu'on puisse donner l'amour dont on a envie de donner. Ça a l'air un peu égoïste, mais en vrai, toutes les relations sont égoïstes. Je veux dire, tout ce qu'on fait est égoïste de toute façon. Donc, voilà.
Mais on peut se retrouver aussi, effectivement, même avec des personnes qui sont ce que j'appellerais des partenaires. Donc, moi, j'ai des sex friends. Ce que tu me dis m'évoque un truc avec un de mes plus anciens, qui est aussi un vrai confident. On peut vraiment se dire plein de choses. Et il y avait un soir où on se voyait et il me dit, mais... c'est OK si on baisse pas aujourd'hui. Je lui dis, mais oui, bien sûr. Je dis, parce que normalement, quand on se voit, on discute beaucoup et c'est super, mais forcément, à un moment donné, on va baiser parce que ça ponctue et c'est chouette et j'aime bien et toi aussi. Et donc là, j'aurais l'impression de te décevoir si on baisse pas. Je lui dis, mais pardon, mais je trouve ça très intéressant que tu puisses me parler de ça alors que ça fait des années qu'on se connaît. À quel moment c'est un impératif? Je lui dis, bah, j'aurais l'impression, en tant qu'homme, de pas faire ce qu'il faut. Très intéressant.
Mais c'est parce que du coup, on range tout dans les petites cases. C'est-à-dire que même les nouveaux trucs, cette tendance de créer des mots pour tout est absolument fascinante. Alors, c'est très bien d'avoir des mots qui nous permettent d'exprimer. Dans le bouquin, je parle pas mal de situationship, donc des relationships qui dépendent de la situation. Donc, juste tu te dis, ouais, soyons ensemble pendant, je sais pas, pendant cette année, parce que après je déménage et voilà, ce genre de choses. C'est très pratique d'avoir des mots pour expliquer. Mais dès le moment où ça devient des boîtes et qu'on pense qu'elles ont des frontières hermétiques, là, ça devient problématique. Et se dire, bon, bah alors cette personne, ça va être un sex friend, donc on a du sexe à chaque fois. Ben non, en fait, la vie, elle n'est pas comme ça. Les relations, elles ne sont pas bien nettes. Et j'en parle pas mal dans le livre, en fait. Comment est-ce qu'on définit les différents types de relations? C'est hyper compliqué, en fait. Plus on creuse, plus on cherche. C'est pour ça que c'est tellement facile de dire, ah ben un couple, c'est des gens qui ont des rapports sexuels. Et ça prouve qu'ils sont amoureux. Ben non, en fait, parce que la majorité des couples ne couchent plus ensemble. Parce que, genre, la vie, en fait. Mmh. Ou parce qu'il y a des personnes qui sont asexuelles. Il y en a tellement des personnes qui sont asexuelles. Genre, moi, je vois autour de moi... toutes les personnes qui genre sont dans ma vie et que je connais pas du milieu féministe, etc., et qui font leur coming out, les stats sont complètement sous-estimées parce que juste il y a une prise de conscience maintenant à l'heure actuelle et que bon bref, je vais pas rentrer sur ce sujet parce que écoutez mes autres podcasts très femme disait ailleurs si la sexualité vous intéresse. Moi aussi j'ai eu effectivement des sex friends même si je les appelais pas comme ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que notamment il y en a un avec qui habitait à l'étranger et du coup quand on se voyait, bah on passait tout le week-end à parler ensemble. Et c'était vraiment ces moments de rencontre incroyables où on va en vacances ou en week-end ou par des potes ou chez nous passer un week-end ensemble avec une personne et cette intensité de la découverte de l'intimité, de la découverte des corps que je trouvais absolument génial. On ne baisait pas beaucoup, enfin un petit peu, enfin c'était genre plutôt on se faisait des câlins à poil dans le lit. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit « mais moi, j'appelle ça tomber amoureuse ». Et j'étais là genre… non, enfin moi c'est pas comme ça que je le vois. On est bien comme ça et en fait on ressent pas ce truc. Nous on a juste l'impression d'être des potes qui aimons être tactiles l'une avec l'autre quoi. Et ça n'a rien à voir. Mais du coup en fait il y a un truc aussi où les sentiments, on n'a pas de comparatif clair. Et en fait c'est juste ce que nous on vit, comment on les perçoit, comment on a envie de les percevoir. C'est ça qui définit la relation. Et ça peut être fluide, ça peut changer. Je trouve ça hyper important. Et d'ailleurs, en fait, c'est une réflexion. J'en profite. Oui. C'est une réflexion que je m'étais faite. Je regardais Looking, qui est une super série queer. Oui.
Trop bien.
Faite par Andrew High, qui est en ce moment un film au cinéma. Je sais pas comment il s'appelle en français, c'est All of Us Strangers en anglais. Et il y a cet épisode 5 de la saison 1 que j'ai revu, qui est vraiment sur la rencontre, le moment où deux personnages rentrent dans leur intimité et ce jour où ils décident de pas aller au travail pour passer la journée ensemble. Oh. Et c'est juste cette journée. Et c'est tellement un beau moment. Et j'ai eu la chance de vivre ça quelquefois lors de voyages parce que bah, c'est le moment où on a du temps, où on rencontre des gens. Et je me suis dit, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne vive pas ça entre potes. Qu'on n'ose pas se dire un jour, on rencontre quelqu'un et on se dit, j'ai passé une tellement bonne soirée avec toi, viens, je dors chez toi. Viens, on passe demain, on passe la journée ensemble et on se raconte nos souvenirs hyper intimes. Et viens, on se tient la main. Et en fait, je trouve ça dommage que... Moi, c'est le seul truc qui me manque
entre guillemets, dans le célibat, parce que les gens me disent, bah non, est-ce que ça te manque? Je suis, bah non, en fait, déjà, d'un, c'est ce dont j'avais toujours envie, et de deux, je sais pas vraiment ce que c'est que d'être amoureuse, donc ça me manque pas, de fait. Mais le truc que j'ai aimé dans mes années de recherche de couple, ça a été ces moments-là, ces week-ends un peu suspendus. Et j'aimerais juste qu'on se permette d'avoir des moments suspendus comme ça avec plein d'autres personnes. Ces rencontres qui ne vont pas durer longtemps, mais qui sont d'une intensité et d'une intimité folle.
Oui, et puis avoir ce temps aussi pour ses amis en disant, bah, je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps avec une de mes meilleures amies. Et elle dit, mais on s'est croisés par hasard, parce que merci le destin, on se croise par hasard à la gare. Elle est avec une de ses filles. Et elle me dit, quand est-ce qu'on se voit? Il faudrait qu'on s'organise. Je fais, stop, tu fais quoi demain? Elle me dit, bah, j'ai rien de prévu. Oh, trop, on se voit demain.
Mais l'organisation, ça tue tous les liens sociaux. Je ne l'ai pas encore lu, mais il y a le livre de Lorraine Bastide. J'ai l'impression de faire du name-dropping depuis tout à l'heure. Mais bon, je sors d'une période d'écriture, donc j'ai plein de livres en tête. Je ne l'ai pas encore lu, mais elle a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle L'Escargot. Mm-hmm. Rien que le titre, je suis genre absolument fan, parce que je parle beaucoup dans le livre des solutions concrètes, parce que je ne veux pas que juste ça soit des énièmes injonctions ou des propositions, des sortes d'utopies qui ne fonctionneraient que pour certaines personnes qui ont des privilèges comme moi. Et même moi, je galère. Alors, je me dis, genre, les personnes qui n'ont pas la chance de venir d'un milieu privilégié, comment font-elles? Et je pense que ce dont on a besoin, au-delà d'un changement de la fiscalité, de l'immobilier et tout ça, c'est du temps. Mmh. C'est du temps pour soi, pour être bien dans sa peau, pour pouvoir apprendre à se connaître. C'est du temps pour avoir du temps pour sa famille, pour ses potes, pour ses enfants. Arrêter d'être stressé constamment, de crier, de se dire « Ah bah, il faut que j'ai pas le temps, il faut qu'on se voit dans un an, il faut qu'on se voit dans 6 mois. » Comment on peut garder des liens forts? Comment on peut créer de la solidarité? Parce qu'il faut qu'on boucle ses potes à l'avance.
Oui.
C'est pas possible, en fait. Moi, en tant que parent célibataire, j'ai envie de potes qui soient disponibles là, maintenant, et avec qui on puisse se filer des coups de main. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et si on est là à booker non-stop, ben en fait, on n'a pas de place pour être là pour les autres. On n'a pas de place pour créer cette spontanéité, pour créer cette beauté des relations. On n'a de la place que pour s'occuper de la personne avec qui on vit. Et c'est tout. Et du coup, forcément, nos autres relations qui sont peut-être aussi belles, voire plus belles, ça dépend avec qui on sort. On n'a pas la possibilité de les chérir et de les faire grandir.
Laisser la place, effectivement, à nos amis, garder du temps pour soi. Par contre, l'improvisation, moi, je dirais oui, mais avec ses limites. C'est-à-dire que parfois, notamment dans le rapport aux hommes, il y en a, ils ont le côté « tu fais quoi ce soir ?» ou « tu fais quoi maintenant ?» Et donc, bah, des fois, on a envie de se respecter soi, on a envie que l'autre nous considère. Et bah, si tu me considères, c'est que tu as envie de me voir, et donc tu m'en parles un peu avant, parce que je ne suis pas à ta disposition.
Oui, mais alors, il y a une différence, effectivement, entre des personnes qui pensent qu'on a leur disposition en bouche-trou, et juste... Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important, on en revient encore à l'immobilier, de choisir où on habite et de pouvoir se rapprocher des gens qu'on aime. Ça, c'est un truc dont on parle de plus en plus des amis, de déménager pour se rapprocher de potes. On parle aussi de faire village. On ne peut pas faire village si on n'habite pas dans un village. Mmh. Moi, avant, j'avais un pote qui était hyper présent dans la vie de mon enfant. Bah, depuis que j'ai déménagé, on a 30 minutes de transport. Bah, il ne peut pas être aussi présent, c'est juste plus possible. Et donc, il y a aussi ce truc de la spontanéité de la vie de tous les jours. J'ai un couple de potes comme ça, on se dit... Je sais pas, le vendredi soir, tu fais quoi samedi, tu fais quoi dimanche, et on s'organise des choses. Et c'est pas parce qu'on est des bouche-trous, on peut aussi prévoir des choses. Hein. On se prévoit des trucs des mois à l'avance, on se considère, on est là pour l'autre, on arrive en cas de pépin, etc. Mais c'est juste de se dire, bah, on a envie d'avoir cette souplesse qui nous permet, nous, de nous écouter et de dire, ah bah, ce jour-là, je suis fatiguée, ce week-end, je reste à la maison. Mais de se dire aussi, bah, on habite à côté, faisons quelque chose, voyons-nous une demi-heure, voyons-nous une heure. Et ça, c'est des choses qui viennent aussi avec la proximité. La confiance en soi, le fait de savoir que l'autre va pas se dire... tout le monde a un petit peu peur d'aller vers les autres. Je parle pas mal dans le bouquin de ça, de genre la peur qu'on a de créer des liens amicaux ou juste d'aller parler aux parents de la crèche ou de l'école maternelle. Ils vont se dire « Ah, elle est pathétique, elle a pas de pote, pourquoi elle va me voir ?» Il faut dépasser un petit peu tout ça, en fait. C'est pas facile. Mais en fait, tout le monde en a secrètement envie. Enfin, tout le monde. Je déteste les phrases qui sont comme ça parce que non, tout le monde n'a pas secrètement envie qu'on vienne les embêter pour leur proposer un café. Mais je veux dire, souvent, beaucoup de personnes ont envie de créer de nouveaux liens. Les gens qui disent « Non, mais c'est bon, j'ai suffisamment d'amis. » Mais qui êtes-vous? Enfin, genre, bravo, mais incroyable. Mais je suis impressionnée. Je crois que ça n'arrive pas si souvent que ça. Ça veut juste dire qu'il n'a pas envie d'être ami avec toi.
Mais on n'impose pas non plus. Je fais une dernière parenthèse parce que là, je me suis dit, je suis dans un avion avec ma maman pour Alger. C'est un séjour que je n'ai pas choisi, mais maman est contente, je vais être contente, je suis vraiment dans la pensée positive. Et on est à côté d'une dame, moi j'ai la place la plus pourrie, celle du milieu, et cette dame a furieusement envie de parler. Oh. Moi j'ouvre mon livre très ostensiblement.
Hein. Tu fais les casques, le livre, le truc.
Et ça ne marchera pas cette technique dans un avion Air Algérie, parce que beaucoup de personnes d'origine algérienne, et il y a cette proximité, sans généraliser, il y a ce truc.
Oui, c'est culturel.
Voilà, on va tous au bled, donc à un moment donné, on s'entraide, ça c'est super, pour les valises et tout ça, mais... vous faites ceci, vous faites cela. Alors, j'ai fait une technique, madame. Bon, je pense qu'elle écoutera pas le podcast, mais une technique d'actrice. Elle voulait absolument me parler de sa famille, de ses enfants, de pourquoi elle allait à Alger, de, des histoires d'héritage, de trucs compliqués. Et elle me dit, vous avez des enfants? Et là, je me suis dit, normalement, je dis non, mais avec le sourire, genre, tout va bien. Là, je vais la jouer acteur studio, genre, non. Voilà, mais genre, voilà, genre, non. Elle me fait, je suis vraiment désolée, je suis très indiscrète. Et là, j'ai failli dire, comme toute Algérienne qui se respecte, de cet âge-là, les questions intrusives, tout ça, bon, ok. Je fais, non, je n'ai pas, enfin, je suis vraiment désolée, pardon. Et elle est repartie parce qu'elle a dû se dire, ça se trouve, effectivement, l'enfant est mort. Ça se trouve, elle a essayé, elle n'a pas réussi. Ça se trouve, il y a un problème.
Bah, j'en parle de toutes ces questions, justement, à quel point il faudrait qu'on change les questions de base qu'on pose aux gens.
Ça.
Après. Et les relations sociales, c'est hyper compliqué, en fait. Moi, je suis là dans mon livre à dire, il faut revaloriser les liens, vivre l'amitié, rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Et puis, il y a des jours où je suis juste là, genre, oh, pourquoi j'ai invité cette invitation pour une pendaison de crémaillère? Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Tout le monde va penser que je suis une tarée. Moi, il se trouve que, genre, tous les gens, que même ceux que je connaissais pas bien, je me suis dit, allez, je vous invite. Tout le monde a répondu positivement à cette invitation, mais le moment de stress quand je l'ai envoyé, je me suis dit, non, mais ça y est, c'est la fin de ma vie sociale. Tout le monde va penser que je suis pathétique parce que j'organise une soirée chez moi. Qu'il y a des jours où je me dis, genre, vraiment vivre avec des, parler avec des gens. Et j'ai l'impression que cette personne à la crèche, elle me snob, on va jamais devenir pote, et j'ai l'impression que si et que ça. Et j'ai qu'une envie, c'est de me foutre sur ma couette et de plus jamais parler à personne. C'est pas facile, en fait. Juste, tout est compliqué. Savoir la limite entre être social, il y avait une étude aussi que j'ai vu passer, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait pas mal pendant toutes mes recherches, le bien que ça nous fait quand les gens sont sympas dans la rue.
Ah ouais.
Quand on papote, moi j'adore faire ça, mais c'est parce que j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, et là le small talk c'est un truc. Et ben en fait au début, les premières fois que j'y suis allée, j'étais là genre, mais c'est quoi ce pays de demeurer, j'étais un peu cynique, j'étais une ado très cynique, Sartre, Beauvoir, blablabla. J'étais là genre, mais c'est quoi ce pays de gogol qui te demande comment ça va, toutes les 5 secondes, ils en ont rien à faire. Et en fait je me suis prise au jeu, et c'est hyper agréable, maintenant j'adore faire ça, juste de, à la crèche, je suis le parent qui parle le plus. Mais moi je chatte tout le monde quoi, j'essaie de faire des petites conversations, etc. Je trouve que ça apporte des bonheurs simples, ça recrée du lien social, et ça permet à plein d'inattendus de s'opérer, de parler avec les gens, mais il faut réussir à voir les signaux sociaux, de voir si l'autre personne a envie qu'on lui parle, de s'arrêter au bon moment. Et ça, c'est vraiment pas évident. Et c'est d'autant pas évident qu'on va parler un peu de neuroatypicité, de neurodiversité. Mais tout le monde n'a pas la même façon de lire les signaux sociaux. Tout le monde n'a pas le même rapport avec les autres. Et donc, ne jamais croire que les gens sont comme nous. Mmh. C'est pour ça que vraiment, je ne veux pas faire dans mon livre d'injonction, parce que quand on parle de relations sociales, tout est tellement plus beau, complexe, est difficile que ce qu'on nous fait croire.
Et ben, ça sera un très joli mot de la fin. Merci beaucoup Aline. Je rappelle le titre de ce livre, Post-romantique, comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société. Et j'en profite aussi pour rappeler que l'autre livre est toujours disponible, Libéré de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau.
Et puis si le genre vous intéresse, j'ai aussi écrit Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus, avec Marisa Fimei. Un bon cadeau pour votre grand-père ou votre tante.
Pour voilà. Tout le monde, pour vous.
En fait, j'ai beaucoup de gens qui l'ont juste lu. On pensait que ce serait un cadeau que les gens feraient. Et en fait, c'était genre beaucoup pour elles-mêmes que les personnes l'ont acheté.
Très bien. On mettra toutes les références ainsi que les podcasts. Enfin, tu es très active, donc on va mettre tout ça en référence. Ça aide au référencement pour toi. Et pour moi aussi. Merci beaucoup à tous et à toutes d'écouter cet épisode, de le partager, de mettre des likes, des commentaires, ça aide vraiment le référencement. Merci à ceux et celles qui ont déjà participé au Tipeee, ça aide à payer le montage et l'hébergement de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.